Bonjour à tous et bienvenue dans Nip Sales, Nip Sales 050. Et oui, c'est la fête, c'est le début, on va dire, d'une nouvelle saison comme à la télé. À la télé, les saisons commencent au mois d'août. Alors on va dire que la nouvelle saison commence. C'est quoi? La troisième saison, je crois. Moi, c'est Side, SYDE. On est là pour quoi? On est là pour vous parler de vente, de retail, de communication. On est un podcast de la famille Nipcast et bon, on existe depuis 3 ans. Moi, c'est Marco. Est-ce que je dis des conneries? Allez, confirme.
Salut Mike, salut à tous. Non, je crois que tu as juste bien arrondi, comme un vendeur, tu sais, qui parle de ses résultats mensuels en réunion. Voilà, tu as arrondi, je pense que ça fait un petit peu moins de 3 ans, parce qu'on a commencé à la fin de 2013, donc en décembre 2013. Donc ce sera quand même bientôt là, hein, l'air de rien. Et puis, qu'est-ce que tu as dit d'autre comme connerie? Je me rappelle plus, mais vraiment rien de très grave.
Non, c'est toujours important, les hashtags, c'est vrai. Bah, voilà, on continue, on perdure, chaque 2 semaines, on parle de ça. Là, ça faisait un petit mois et demi hein, qu'on s'était pas vu le dernier... était un Niptech Explore du 27 juin, donc on a vraiment pris une longue, longue pause. Comment c'était tes vacances, Marco?
Alors, c'était très bien, très reposant. J'avoue que j'étais bien stressé là par tous mes jobs que j'avais en parallèle avant de partir en vacances. Alors, il y avait évidemment du suivi client hein, pour Audience qui a avancé. Ça, c'est mon agence, ma boîte de consulting. Il y a la Nipconf hein, sur laquelle il fallait donner un coup de cravache au niveau des intervenants. Mais c'est quelque chose dont je vais pouvoir parler tout à l'heure, justement. Ce split cérébral, j'ai dû travailler dessus. Et ça fait justement l'objet de mon expérience de la semaine. Hein, comment finalement bien conclure une relation de travail. On y reviendra tout à l'heure.
Très bien. J'avais une question. Le dernier Niptech était... le dernier Nip Sales, pardon, était sur l'appel d'offres public pour une radio digitale. Je vous encourage tous à aller regarder ou écouter. Est-ce que tu as du feedback sur l'offre? Est-ce que tu l'as reçu, pas reçu? Est-ce que tu as été choisi ou ne pas choisi?
Alors oui, j'ai eu du feedback et non, nous n'avons pas été retenus. Donc ça, c'était la mauvaise nouvelle de la semaine passée. Hein, il faut savoir que la Confédération prend son temps hein, pour décider. Alors pour rappel, on parlait d'un appel d'offres public pour la promotion de la radio digitale. C'était justement l'épisode posté le 27 juin qui s'appelait ainsi. Et donc on a remis un dossier alors au nom de Business et Décision et avec une agence créative pour nous soutenir qui était Cavalcade. D'ailleurs, je remercie tout le monde au passage pour le boulot qu'on a réalisé. Parce qu'on se connaissait pas bien, puis je trouve qu'on a fait un super job. Mais au final, alors après qu'on se soit fait un petit peu embêter parce que on avait mis les pièces de référence qu'ils avaient citées. Par exemple, la Confédération avait demandé 3 exemples de campagne télévisuelle et nous, on s'est permis de mettre 5 exemples, tu sais, pour montrer que voilà, on en avait fait. Puis ils nous ont demandé, bon, bah, c'est lesquels les 3 que vous voulez mettre pour qu'on vous voilà, pour qu'on vous qualifie ou pas. Et donc, après avoir passé encore un petit peu de temps, tu sais, à structurer la démarche, eh ben, 2 semaines après, on nous a répondu que 3 agences alémaniques avaient été retenues. Donc, sauf erreur, c'est... Est-ce que c'est 2 Zurichoises et 1 Bernoise ou 2 Bernoises et 1 Zurichoise? Et puis comme par hasard, l'Ofcom étant dans le canton de Berne, je pense que, tu sais, les questions de proximité ont plus de compétences, ça joue aussi un rôle. Ah, donc sans rancune, personne n'a été choisi de francophone à la place de Business et Décision. Et donc j'ai été un petit peu déçu sur le moment, mais c'est la vie, c'est le jeu.
C'est le jeu. Des fois, bah, je pense qu'aussi, on apprend à faire des appels d'offres. Après, il y a un côté politique. C'est vrai que toi, tu disais, bah, nous, on vit dans un pays où il y a plusieurs langues. Donc, le côté faire attention à ne pas choisir qu'un bord est assez, est d'une importance assez grande en Suisse. Et là, c'est vrai qu'ils auraient pu choisir quand même un truc roman. Mais je pense qu'ils se disent que Berne, ça parle aussi français. Mais là où ils se trompent.
Ouais, mais pour eux, tu sais, Berne fait déjà partie de la Suisse romande. Quand ça les arrange, et puis autrement, bah, ça reste la Suisse alémanique, et puis parfois encore, c'est la capitale, hein, on a tendance à l'oublier. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, Mike, j'ai pas de regrets, mais j'ai le sentiment qu'on n'a pas fait l'extra mile.
Ah oui,
On rentre dans le dossier, ouais. Je trouve qu'on a fait un bon travail. Tu sais, si je rendais une dissertation en français, je pense que j'aurais eu un 7,5 sur 10.
Hein, juste pas 8.
Juste pas 8 ou 8,5, tu sais, vraiment le bon travail où tu vois que la personne, elle a remis quelque chose d'un petit peu spécial, d'un petit peu différent par rapport aux autres. Et ça, j'avais pas le sentiment qu'on l'avait fait. C'est pour ça que... Tu sais, je peux pas en vouloir aux autres de pas nous avoir retenus. Voilà.
Ok. Bon, très bien, c'est très cool. Ben moi, pour mes vacances, c'était très bien. J'ai pris 2 semaines. Je suis allé en Italie, dans ton pays d'origine, on va dire. C'était sympa. Je crois qu'une chose que j'ai fait là, que je fais rarement, c'est vrai que j'ai vraiment coupé. C'est-à-dire, j'ai pas lu mes emails, et j'ai remarqué qu'une des choses, et ça m'a vraiment aidé à rentrer avec l'esprit clair, l'esprit libre. Une chose que je remarque, c'est que si je commence à regarder mes emails au début de mes vacances, je continue à le faire tout du long. Si je le fais pas pendant ces 3-4 premiers jours ou 5 premiers jours, c'est vraiment quelque chose qui me libère et après je le fais pas pendant tout du long. Donc vraiment, même si on a des responsabilités, des fois il faut savoir décrocher et là j'étais content d'avoir l'esprit libre. Et quand t'as deux gamins, autant te dire que t'as de quoi te concentrer sur d'autres choses.
Et que t'es jamais complètement libre.
de toute manière. Et parle-nous un peu de la NIFConf, parce que c'est le 21 octobre et puis dis-nous qu'est-ce qui se passe, ce que c'est encore en deux secondes et puis comment on peut acheter des billets surtout.
Alors j'ai une petite annonce à faire en plus, donc ça tombe bien. La NIPConf, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est NIPConf comme conférence. Et l'idée, c'est qu'une fois par année, ce sera le 21 octobre 2016 à la HEG de Genève, nous allons parler des tendances émergentes qu'il y a dans un écosystème. Cette année, on prend celui de la finance en répondant à une question, la fin de l'argent. Point d'interrogation. Et évidemment, ce ne sera pas la fin de l'argent, ce sera le début, on va dire, de nouveaux usages, de nouvelles fonctions, de nouvelles technologies que nous aimerions expliquer justement durant cette journée du 21 octobre 2016 depuis HEG Genève. Et puis pour tous ceux qui aimeraient nous rendre visite, je t'ai coupé la chic, Mike.
Non, vas-y, dis-moi justement, c'était ça que je voulais savoir.
Alors, demain, donc lundi 22 août 2016, sera le dernier jour pour commander son billet en early bird, c'est-à-dire à 169 francs au lieu de 219 francs, donc un rabais de 50 francs suisses.
150 euros.
Bravo, voilà, je te remercie beaucoup Mike. Et vous avez la possibilité d'aller sur le site de la NIPConf, vous verrez la section billetterie, vous commandez un billet à 169 francs et à partir de lundi soir 23, donc à une minute, une fois qu'on aura passé minuit, il sera à 219 francs. J'avais envie de faire cette petite annonce pour tous ceux qui ont envie d'en profiter à tarif préférentiel.
C'est bien, et en plus vous n'avez pas d'excuse, vous direz oui c'est en Suisse, oui si, Genève, c'est la capitale, je ne vais pas dire d'Europe parce que c'est là, mais il y a des TGV qui vont partout de France et de Navarre, ça prend 3 heures de Paris, vous pouvez même faire un aller-retour dans la journée, je l'ai fait, et j'habite plus loin encore, donc mais Lyon c'est à quoi, 1h30, Marseille, ça je ne sais pas, j'y suis jamais allé, malheureusement pas encore, donc pas d'excuses, même en Belgique, Bruxelles-Genève, ça prend 1 heure en avion, je l'ai fait maintes fois, donc on n'a vraiment pas, venez à la NIPConf, si ce n'est pour voir d'autres personnes, pour apprendre des choses sur le domaine des fintech ou de l'argent en général, pour voir tous les gens de NIPTech, de NIPSales et d'autres qui seront là, ça fait toujours plaisir de vous voir et de vous parler, c'est aussi cool ça.
Ouais, et puis je vous préviens qu'on va faire quelques annonces à la rentrée. Donc là, on attend simplement que la semaine prochaine, c'est la rentrée en tout cas en Suisse. Et d'ici à début septembre, on a pas mal de surprises à communiquer. Alors autant du côté intervenant, où on va faire une belle annonce, que du côté communication, où un nouveau site internet va apparaître. On aura l'occasion de mieux comprendre quelles sont les histoires qui seront racontées par quels intervenants. Et puis finalement, il y a la zone expérience qui va être dévoilée au fur et à mesure à partir du mois de septembre. Donc la zone expérience, c'est ce lieu d'à peu près 150 mètres carrés où on peut tester et partager les nouvelles technologies une fois qu'on a écouté les belles théories en salle de conférence.
Mais tu sais, un truc qui est assez hallucinant, donc c'est la 3e édition de la NIPConf. J'ai testé des produits à la NIPConf, comme
Oculus Rift.
Ouais, Oculus Rift. Et puis j'ai testé aussi des beacons et des choses comme ça avant même de l'avoir fait à CES à Las Vegas. Et je dois dire, quand je regarde les expériences que j'ai eues à la NIPConf ces deux dernières années et les choses que j'ai pu tester, j'en étais assez bluffé même par rapport à un énorme show comme à Las Vegas où il y a tellement de gens qu'on peut pas le faire. Donc venez nombreux, allez, si ce n'est pour parler d'argent parce que vous vous en foutez, en tout cas parlez avec nous, ça vous en foutez peut-être moins car nous on aimerait vous rencontrer. Allez, on a assez parlé de nous, de toute façon, si vous voulez pas nous entendre parler au départ, vous savez comment vous faites comme moi dans les podcasts quand il y a de la pub au début. Je passe les 30 secondes jusqu'à que ça m'intéresse. Et vous avez le droit de le faire, car moi je le fais aussi sur les podcasts. Allez, on passe à l'expérience de la semaine. C'est moi qui vais commencer, n'est pas de coutume, et je vais vous parler d'une chose que je suis en train de faire. Alors quand je dis « je », c'est pas moi, c'est mon équipe et moi. Moi je suis responsable de vente et on est en train de créer un meeting pour nos distributeurs sur une grosse plateforme qui s'appelle l'IFA. L'IFA à Berlin, c'est un peu le plus grand, c'est un des plus grands centres de, est-ce que c'est Consumer Electronics, on pourrait le dire comme ça, monde. Vraiment, c'est chaque année, c'est le début septembre chaque année à Berlin et ça s'appelle l'IFA. Et dans ce cadre-là, nous on s'est dit, puisqu'on y est chaque année, qu'on allait inviter nos distributeurs. Un distributeur, c'est quoi dans notre langage? C'est quelqu'un qui vend nos produits à l'étranger. mais dans lequel on n'est pas, c'est, on n'a pas une filiale, une entité légale, si vous voulez. Donc on passe par quelqu'un à l'intérieur. Et comment...
externe à l'entreprise, mais qui vend les produits de l'entreprise.
Exactement, exactement, c'est ça. Et on se dit, ben, comment on veut les rencontrer? Alors, une chose qu'on se pose comme question, c'est est-ce qu'il faut les rencontrer chaque année, tous les deux ans, tous les trois ans? L'expérience qu'on a vue, c'est qu'avec des distributeurs, il faut les rencontrer quand on a quelque chose à dire. Donc là, on a quelque chose à dire, on est content. Deux, aussi, il faut une plateforme commune. Les inviter lorsqu'il n'y a rien autour, c'est plus difficile. C'est la même chose un peu avec la presse. Quand on se lie à un autre événement, c'est plus simple de faire venir des gens.
Et là, Mike, j'ose t'interrompre pour te demander. Tu sais, là, c'est la première fois que vous invitez des distributeurs.
Non.
Vous l'avez déjà fait.
Oui, on l'a eu fait chaque année, mais voilà, on voyait que c'était pas assez powerful. La dernière fois qu'on l'a fait, c'est il y a 3 ans.
Est-ce que tu as des objectifs de vente par rapport aux distributeurs? C'est-à-dire, tu les retrouves à l'IFA, qui est vraiment une très grande manifestation à l'échelle européenne, je dirais même mondiale, pour montrer des innovations par rapport à l'année prochaine et ou vendre encore, tu sais, bien terminer l'année. Tu fais tout ça en même temps ou tu as un focus?
Ouais, je fais tout ça en même temps, mais il faut savoir que nous, notre nom distributeur, c'est vraiment des gens qui vendent nos produits dans des pays étrangers. Donc, c'est pas seulement des retailers type Carrefour, Boulanger et d'autres, ou des manoirs en Suisse. C'est vraiment des gens qui distribuent ton produit à l'étranger. Donc, ils ont une relation avec toi qui est beaucoup plus grande, parce qu'il y en a certains qui travaillent avec nous depuis des dizaines d'années. La relation, elle est différente. Tu ne leur parles pas comme tu parles à un retailer. Tu leur parles comme si tu parlais à quelqu'un qui est ton semblable.
Donc, un vrai partenaire.
Un vrai, vrai partenaire. Alors, soyons honnêtes, hein, y en a toujours des qui sont plus partenaires que d'autres, avec lesquels ils font mieux du travail que d'autres. Et l'idée, c'est vraiment, l'expérience nous a montré, il faut prendre la parole quand tu as quelque chose à dire. Si tu vas rien avoir à dire, les gens vont s'embêter dans ta conférence. Donc là, on a quelque chose à dire, donc c'est bien. Un lieu commun pour qu'ils viennent, et l'IFA c'est génial, parce que même s'ils viennent de Chine ou d'autres, ils peuvent aussi aller voir cet énorme IFA à Berlin qui t'inspire et qui m'inspire chaque année, parce qu'il y a toutes les technologies, il y a Samsung qui lance des choses énormes, LG, enfin il y a tous les grands qui sont là, à part Apple et Microsoft, mais voilà, on s'en fout. Et cette date est commune, donc on le fait le jour avant le début de cette grande foire, et ça c'est souvent bien. Donc ça marche. Après, la question qui se vient, c'est quand tu rencontres ces gens, qu'est-ce que tu vas leur présenter? Alors, tu as toujours une liste énorme de choses que tu aimerais leur dire ou leur faire passer comme message. Après, il faut commencer à casser et pas trop parler. Une chose, c'est bien sûr les nouveautés que tu présentes. Donc ça a souvent le point of focus ou le point principal. Et après, tu vas essayer de développer là où tu vois qu'il y a des points faibles ou des choses, tu vas essayer de mettre l'accent sur ça. Notre idée, je pense qu'on l'avait testé il y a 3 ans et ça avait fonctionné, c'est toujours de réfléchir en case study, de pas dire blablabla des espèces de trucs banals, mais comme l'expérience de la semaine ici, prendre des cas concrets qui sont arrivés et le transformer dans un cas de la vente. Ça peut dire comment est-ce que quelqu'un doit démontrer le produit et prendre des cas concrets d'un pays qui fonctionne avec comment il l'a mis en place pour pouvoir le présenter avec des chiffres. Et comme ça, ils viennent en se disant « Ah voilà, ils ont vraiment un guidebook pour le mettre en place ».
Sachant que c'est vraiment un exercice qui est difficile.
Très
c'est-à-dire
difficile.
Que tu as envie de dire des choses, tu as aussi envie de placer des messages commerciaux.
Oui.
Hein, le but étant que tu gagnes quelque chose à la fin de cette présentation. Et puis, c'est un mix entre être assez intéressant, tu sais, pour que les gens, finalement, ils s'asseyent, ils t'écoutent.
Oui.
Moi, tu sais, j'ai toujours cet indicateur du les gens qui sortent leur téléphone pendant que je parle en conférence, tu vois.
Oui.
Et quand j'en vois plus de 3 qui sortent leur téléphone à un moment donné, c'est danger, je suis en train d'ennuyer.
Oui.
Et ce mix entre message de vente et intérêt, tu sais, il y a un exemple que je trouve assez bon, c'est quand tu as des boîtes qui arrivent à faire une étude, tu sais, où chaque année elles republient une étude qui est assez intéressante. Mais je pense qu'il faut vraiment.
Et c'est vrai, JFK ou Nielsen qui font des études assez intéressantes. Ouais.
Et toi, tu vas raconter quoi en l'occurrence? Sans rentrer dans les détails, ou c'est quoi le niveau d'actu que tu veux passer?
C'est le nouveau produit. Après, tu as comment vendre, comment avoir du succès sur différents plans. Ça peut être le plan humain, le plan organisationnel, le plan marketing, le plan image et des choses comme ça. Et aussi, une chose. On voulait vraiment le rendre rapide. Donc, une chose, c'est que les présentations, elles ne durent pas plus que 15 minutes. Et il y aura aussi des questions à la fin. On va essayer de pouvoir le rendre interactif. Et si personne posera les questions, c'est moi qui poserai les questions à l'intervenant. Donc, autant te dire que ça va être cool.
T'auras qui comme intervenant?
Alors, moi, j'ai trouvé un gars que, quand j'étais au Retail Forum à Amsterdam, il y a un mec qui est bon, qui vient de Practicology, ça s'appelle, c'est un site web. Et c'est un mec qui parlait du futur du retail de manière assez bluffante. Et j'en ai entendu parler du futur, j'aime bien futur, comme vous le savez. Et ce gars, il a une aura assez incroyable avec des cas concrets de qu'est-ce qui se passe, comment on doit se développer en ligne, comment on doit penser différent avec le client, au centre de nos préoccupations. Et lui, il va venir nous brainwasher, comme on dit, nous laver le cerveau de ses jolies idées à la fin. Donc, au dernier bout, il va venir et puis pendant 20 minutes, il va parler. Et pour l'avoir entendu, je pense que c'est un très bon intervenant. Alors, bien sûr, j'ai dû le payer. Hein, et qui vient à Berlin. Je pense qu'après, il va pouvoir... ils vont pouvoir partir inspirés. Et deuxième chose que j'ai fait, tu me diras si c'est bien. Bien sûr qu'il faut toujours leur faire un petit cadeau à ces distributeurs. Et qu'est-ce que j'ai choisi de leur faire comme cadeau? J'ai décidé de leur faire un sac de montagne. Alors, c'est pas vraiment un sac de montagne, c'est un sac de ville, mais Mammouth, c'est une boîte suisse.
Boîte suisse.
Que vous connaissez peut-être. Je croyais que c'était une boîte française, mais non, c'est une boîte suisse qui fait des sacs de montagne, mais ça, c'est un sac montagne-ville. Et je leur ai pris ça en leur disant, ben voilà, mon message va être que, avec ce sac, ils vont pouvoir grimper toutes les montagnes et toutes les difficultés. Et à l'intérieur de ça, qu'on a mis bien sûr des chocolats, des trucs et un bouquin que j'adore, que ceux qui me suivent sur Niptech ont déjà entendu. Il s'appelle Obstacle is the way, l'obstacle est le chemin, que j'ai mis à l'intérieur. Et je vais leur faire un petit speech sur ça à la fin. Comme ça, ils partiront avec le sac et avec le fait de savoir que l'obstacle est le chemin. Et j'espère qu'avec tout ça, ils seront inspirés et ça donnera lieu après à des ventes. Voilà.
Écoute, moi je trouve que c'est une très très belle idée, en tout cas, aide intervenant, aide sujet, parce que je crois que le futur du retail, hein, tu peux pas te tromper avec ce genre de sujet, surtout si l'intervenant est bon. Au niveau du cadeau, alors un cadeau qui rappelle la Suisse, tu sais, cette origine de qualité, et qui peut être aussi utile et pratique qu'un sac, qu'un joli sac, tu sais,
il est beau.
Le seul... Non mais je te crois.
Même nous on le voulait, c'est pire.
Tu sais, mon point c'est peut-être juste que poser toujours la montagne comme un obstacle ou comme tu sais le truc à gravir. Ça par contre j'ai déjà entendu quelques fois. Tu sais moi c'est simplement qu'un sac c'est un compagnon quoi, c'est un compagnon de route et je voudrais que ma marque et que mon entreprise soit aussi proche de ce sac, enfin que ne l'est ce sac de mon partenaire quoi. Et voilà, je pense que la montagne c'est une super référence à la Suisse et t'as bien raison de la garder. Un sac c'est un bon compagnon quoi et j'espère qu'ils vont l'utiliser comme bon compagnon de route.
Ouais, je te dirai.
Bravo Mike.
Un truc bah c'est pas encore fait hein, donc c'est dans 2 semaines et demie donc attention, là commence le moment crucial. Un truc qu'il faut faire attention, c'est vrai, il faut faire un bon compromis entre amusement et travail, inspiration et concret. Je pense que c'est un mélange difficile. Je vous dirai à la fin si on l'a réussi ou pas. J'espère qu'ils s'amuseront. Après, on a un gala dinner, bien sûr, où on peut boire du vin et puis s'amuser. Et puis, on verra un peu comme ça donne. Mais le côté, tu vois, il faut que la sauce prenne entre les gens. C'est souvent ça. Et puis, la sauce prend entre les gens quand nous-mêmes, on fait l'effort de mettre les gens ensemble. Et c'est ça notre rôle aussi.
Tout à fait.
De pas rester entre nous. Et c'est ça que je dis à mon team, c'est que nous, on doit faire l'effort d'être vers les gens. Puis tu sais, faire ces connexions entre eux. Dire, ah, tu connais lui, ah, mais Claire, tiens, regarde, blablabla. Et cette espèce en allemand, j'aime bien ce mot, je sais pas pourquoi, Schnittstelle. Tu sais, interface, ça veut dire en anglais. J'adore. Et c'est à nous de faire l'interface entre les différentes personnes. Alors, voilà.
Ouais. Écoute, moi, ce que j'avais encore envie d'ajouter, que je sais que t'es pas un amateur, Mike, et que du coup, tu fais pas partie de ceux qui pensent qu'ils vont avoir des offres signées à la fin de la journée. Parce que c'est illusoire. Ceux qui pensent qu'ils organisent un événement comme celui-là, puis qu'ils signent des contrats à la fin de la demi-journée ou de la journée, faut pas rêver. C'est du relationnel. On inspire les gens. On augmente la confiance, en fait, la perception de confiance qu'il peut y avoir. Je suis convaincu que des contrats et des offres seront envoyés, qui reviendront signés d'un effort comme celui-ci, mais il n'est pas immédiat. Oui. Donc un petit peu de patience et donner sans penser à recevoir.
Oui. Et de toute façon, suite à ce meeting, pendant l'IFA, on a des meetings avec tous nos distributeurs. Donc ça, c'est clair. Et c'est là où on parle du business. Mais des distributeurs, c'est pas comme des retailers. Bien sûr, tu fais des actions avec eux, mais tu fais aussi, c'est aussi sur le long terme. Donc, quand je dis le long terme, c'est pas le mois suivant, c'est plutôt l'année, voire sur les 3 ans. Et donc, tu discutes des plans, parce que c'est les plans qu'ils mettent en place pour distribuer ta marque qui vont te permettre de vendre plus. C'est pas seulement leur tanker un conteneur de plus qui va changer la donne.
Ouais. Bon. Merci pour ces explications. Puis je propose de switcher maintenant à mon expérience à moi.
Vas-y.
Je vais essayer d'être assez succinct parce qu'on a pas mal de news et une belle section inspiration. Mais c'est un truc qui pourrait quand même intéresser pas mal de personnes qui retournent dans les affaires hein, après ces vacances. J'ai envie de dire autant en tant que vendeur que key account manager dans une entreprise, donc relation contractuelle de travail, autant pour un vendeur indépendant ou voilà. Une entreprise, une plus petite entreprise qui remet le pied en selle après des vacances bien méritées. En fait, j'avais envie de parler de comment conclure une relation de travail, c'est-à-dire un vendeur qui ne va plus vendre telle marque et telle gamme de produits et s'en va vendre une autre gamme de produits, respectivement une ou plusieurs autres marques. Ouais. Et ça peut autant toucher des salariés que des indépendants. Mmh. Donc moi, ça m'est arrivé récemment, Mike, c'est pour ça que j'avais envie d'en discuter de façon podcastée avec toi, avec le public, s'il a envie de réagir. En fait, je t'ai déjà raconté ça.
Non, on en parlait un petit peu au départ, hein. Mais tu m'en as pas. Moi, tu dis conclure, c'est plutôt terminer une relation de travail, j'aurais dit.
Oui, exactement, terminer une relation de travail. Donc, c'était un des mandats que je couvrais avant fin juin. Donc, c'était un petit peu après la dernière rémission de Nipsey's Podcast que j'ai vraiment mis un terme à cette relation. Donc, c'était un travail de prospection. Alors, initialement, on l'avait nommé Business Development. C'est pour une agence digitale qui souhaitait toucher des multinationales avec ses prestations de marketing digital, mettez vraiment marketing digital entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est une entreprise très technologique et autant sur la partie techno il y a vraiment de belles plus-values, autant sur la partie relations et peut-être perception commerciale, il y avait encore beaucoup de travail. Et je dirais que c'est parce que j'ai moins senti d'intérêt à un moment donné pour cette mission-là par rapport à plein d'autres. Hein. Vous connaissez la Nipconf, j'ai également quelques autres mandats. J'avais besoin de gagner du temps, tu sais, j'avais mon cerveau qui était pris entre tellement d'objectifs et de mandats en parallèle. Et puis tu sais, un mandat en face, hein, quand t'es le client, il est hyper important pour toi. Donc pour moi, c'était un numéro de mission. Et puis pour le gars en face, c'était un des trucs les plus importants qu'il avait à faire et ce pourquoi il me payait. Et à un moment, j'étais là, je ne pouvais plus, tu sais, accorder un niveau d'attention maximal à chacun de ces dossiers. Puis j'ai décidé de bâcher. Et donc celui-ci est celui qui me prenait à peu près entre 30 et 50% de mon temps. Donc si tu veux, c'était un mandat qui me prenait pas mal de temps, qui me rémunérait bien, mais sur lequel j'avais plus trop le kiff, voilà, après quelques mois, tout simplement. Et puis, j'avais envie peut-être de donner quelques trucs que j'ai suivis, parce que c'est pas la première fois que je termine une relation, et qui, à mon avis, sont utiles à tous les vendeurs. Donc j'en ai retenu 3, et je commence par le premier, si tu veux bien.
Vas-y.
Alors j'y vais en rappelant que le vendeur, c'est le visage, c'est l'oreille, et c'est la main que tend une société vers ses clients. Rappelez-vous qu'en fait, vous êtes l'incarnation de la marque, l'incarnation de l'entreprise et de sa gamme de produits. Et qu'à un moment donné, se désidentifier de cela, déjà c'est bien si vous commencez par là. Mais souvent, quand on a trouvé un nouveau job, on a une motivation de penser à autre chose. Mais n'empêche, ça peut vous coller à la peau en fait. Surtout quand ça fait genre plus de 5 ans que vous travaillez pour une boîte. Et c'est important que l'autre, donc les personnes en face de vous, donc je pense spécifiquement aux clients ou aux potentiels prospects que vous étiez en train de travailler, ils comprennent qu'à un moment, vous allez plus travailler pour cette société et que vous allez travailler pour une autre. Et donc, je pense que c'est un point qui est pas anodin, surtout quand on est key account manager, qu'on a vraiment un super réseau de contacts, vos contacts, à un moment, ils vous ont commandé des bouteilles de jus d'orange ou d'eau minérale, mais c'est les mêmes qui vont commander une voiture, soit pour eux, soit pour leur entreprise, ou qui vont commander des biens de facility management. Donc, j'en sais rien. Quelle est l'opportunité de travail que vous, la nouvelle opportunité que vous allez trouver? Je dis juste que c'est des humains qui ont une panoplie de besoins et que quand vous avez fait un bon boulot dans un domaine, il est fort probable que vous soyez capable de faire un bon boulot de vendeur dans un autre domaine.
Donc toi tu dis, quand on termine ça, il faut le communiquer clairement à ses contacts pour dire « je ne représente plus cette société ». Voilà.
En fait, il y avait encore deux mots que je voulais citer. Le premier, tu viens de le dire, c'est « communiquer ». Mais je crois que j'ai envie d'insister sur ce premier point, sur cette perception de visage, d'oreille et de main, simplement parce que je crois qu'il faut se communiquer à soi-même d'abord. Voilà. Des fois, on le fait bien, puis des fois, on le fait moins bien. Et la communication.
Moi j'avais avant la communication, tu dis j'avais plus envie. Et des fois, je me dis, est-ce que c'est aussi le fait qu'on n'aime plus ce qu'on vend? Alors, je vais te poser la question sur une échelle de 1 à 10. Où est-ce que tu aurais noté ton envie de continuer à vendre ce produit?
Alors, tu sais quoi, je vais te donner deux notes, Mike. J'aime beaucoup ta question. La première, c'est celle où au moment où j'ai fait le deal, où j'ai tapé dans la main, on a dit on fait les conditions. Et là, je pense que de nouveau, je te mettrais un 7,5.
Ah ouais, ok.
Je pense qu'il y avait ma petite voix intérieure qui me disait, c'est cool, les gars sont super smart, tu sais, c'est des solutions pour faire des sites internet encore plus vite, encore moins cher, etc. Donc, je connaissais déjà, c'est pas de la cutting edge innovation, mais je pensais que je pouvais apporter quelque chose. Et c'est vrai que au fil du temps, je pense que j'ai une motivation qui s'est un peu dégradée. Alors, d'une part, tu sais, toutes les choses qu'on se dit à un moment pour conclure un deal, oui. C'est là que je me rends compte peut-être que la mariée n'était pas aussi jolie une fois qu'elle n'était pas habillée, c'était peut-être valable dans les deux sens hein, d'ailleurs. Ouais. J'ai vu que voilà, toute cette pointe de marketing, je voyais pas vraiment la partie marketing, mais je voyais la partie technologie. Donc finalement, j'avais en face de moi moins des businessmen que des bons développeurs, des gens qui connaissaient très bien la technologie et qui avaient pu l'appliquer chez un ou deux gros clients. Et donc moi, quand j'ai vu ça, j'étais là, oulala, mais ça c'est de l'invention, c'est pas encore de l'innovation. Et je me dis, merde, il y a un vrai travail, tu sais, de compréhension du besoin d'une part, de comment marketer cette solution, où finalement, moi, on prenait pour un prospecteur, enfin, on prenait pour un business developer, puis petit à petit, j'ai compris que ce qu'on voulait, c'était un prospecteur. Donc, quand j'ai compris, on va dire en juin, si tu me reposes la même question, là, je pense que je devais être... même en dessous de 5, quoi. Je pense que je devais être à 4,5, simplement parce que 4 ou 4,5, parce que voilà, faire de la prospection pour un truc qui est, je dirais, pas assez bien expliqué pour que les gens comprennent ce que ça leur apporte. Et puis, soit qu'il fallait faire tout un boulot de vrai business development et de stratégie commerciale qui n'existait pas encore complètement, mais pour laquelle on n'était pas prête à me rémunérer, ou bien soit il fallait faire les choses un peu plus intelligemment. Et aucun des deux ne s'est produit.
Une autre question, c'est comment est-ce que tu fais pour arrêter cette relation de travail sans te faire détester par ton ancien client ?
Donc là, tu parles de la personne avec qui j'avais signé un mandat. Alors, ce que j'aime, c'est... Alors, je vais dire les deux mots. Le premier, c'est communiquer. Et le deuxième, c'est archiver. Donc, sur la partie communication, alors pour moi, c'est toujours hyper important de bien communiquer. C'est-à-dire, communiquer ses intentions permet aux personnes de votre entourage de planifier leur vie. Voilà. C'est-à-dire, personne aime avoir eu... Tout le monde a une aversion au risque, voilà. Dès que y a quelque chose qui est pas clair, ça génère une incertitude et donc un risque. Et donc moi, si tu veux, dans ces moments, j'aime bien que il y ait une communication, genre on va arrêter la relation de travail, que droit derrière, on pose tout de suite quelles sont les prochaines étapes. Dans mes étapes à moi, et je vous recommande vivement, chers vendeurs, d'avoir cette étape dans votre processus, c'est de communiquer. Donc moi, j'explique à qui je vais communiquer, comment je vais communiquer, et je peux même, par exemple, soumettre un message d'au revoir à un client, juste pour être sûr qu'il ne heurte pas ma hiérarchie. En l'occurrence là, en fait, j'avais préparé un message pour les collaborateurs internes également. Pour la petite histoire, en fait, j'avais posté un mail tout sympa, hein, tu sais, les mails que tu dis, Mike, pour remercier tout le monde, etc. Et puis, c'est drôle parce que ça a généré la surprise du CEO de cette entreprise que j'avais pas averti. Simplement parce que pour saluer des collègues, j'estime pas que j'ai besoin de prévenir qui que ce soit. On va dire que la partie communication, c'est quelque chose que j'aime bien. Et j'ai ouï dire que je faisais plutôt bien. Donc non, je vais pas te faire valider mes remerciements. C'est quelque chose qui lui a pas plu. En tout cas, on en a parlé quelques mots. Et puis, je comprends, si tu veux, le côté un peu désopilant que peut avoir un collaborateur qui se manifeste en direct auprès de tes collaborateurs à toi, qui sont des salariés. Mais on va dire que dès qu'il a lu le message, il s'est tout de suite décrispé en disant « Non, il est hyper cool ton message, et puis pas de souci. » Mais si tu veux, les collègues à l'interne, vous seriez étonné de voir le nombre de gens qui ont pensé à moi et à des mandats que j'ai pu réaliser, mais simplement parce que je changeais de vie puis que eux m'aimaient bien. Donc, s'il vous plaît, traitez-les comme des amis, comme des bons contacts. Vous faites partie du même réseau, quoi, géographiquement.
Je crois que tu n'as pas répondu à ma question. Je te parlais pas des clients à qui tu as vendu la solution. Je te parlais de ce CEO, cette boîte. Est-ce qu'elle t'aime, cette boîte? Je te parlais pas des collègues à l'intérieur. Je te parlais, est-ce qu'elle te recommanderait à quelqu'un d'autre ou elle dit c'est un énorme trou de balle, Marco?
Alors, je sais pas ce qu'elle pense au plus profond d'elle, mais en tout cas, elle m'a recommandé une fois, on va dire, un autre job en business development que j'ai pas trouvé assez intéressant pour répondre. Mais en tout cas, la direction me l'a proposé. Puis tu sais, c'était un de ses fournisseurs de solutions informatiques. Ouais. Donc, ils y gagnaient quelque chose. Mais ça m'intéressait pas, surtout au-delà du côté difficile. Je pense qu'il y a toujours une partie que t'aimes, une partie que t'aimes pas. Et à mon avis, les bons, on les reconnaît jusque-là. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu qu'on termine bien, tu vois. J'ai tout de suite posé le fait que ça allait s'arrêter à ce moment-là, de cette manière-là. On a évidemment discuté. Ça fait partie de la communication. Quelles sont les conditions auxquelles, en fait, on s'arrête? J'ai posé ça par écrit, donc pas dans un mail, mais dans un contrat. Ce qui fait que quand tu as une situation qui est hyper claire et que à un moment, ben moi j'ai laissé tout mon travail, donc les contacts, les pistes qui n'ont pas été jusqu'au bout, les offres qui ont pu partir, tu vois, j'ai fait un handover avec mon remplaçant en passant du temps pour lui expliquer piste par piste, parce que tu sais, c'est pas seulement ce que tu mets dans un mail après, oui, hein, les choses que t'as faites, c'est aussi, tu sais, la partie plus difficile à expliquer qui est passée en l'occurrence par un téléphone. Et donc une fois que t'as communiqué que t'arrêtes, que tu donnes une échéance raisonnable, que tu communiques bien vis-à-vis des clients, vis-à-vis des collaborateurs,
qu'il y a une solution après ton départ aussi.
Exactement. Donc il y a eu un handover auprès d'un remplaçant à qui j'ai vraiment tout donné, tu vois, toutes les explications, j'ai rien gardé pour moi, y compris les clients un peu chiants que je n'ai pas conseillé de recontacter tout de suite, tu vois. Donc c'est vraiment de pair à pair qu'on fait ce genre d'échange. Moi je crois qu'on a une bonne transmission, et puis c'est vrai que là on est encore en échange, parce que la partie communication, en fait moi j'aime bien rester en bon terme aussi, parce que vous avez probablement des contrats qui prévoient des commissions et qui en fait les commissions, il est possible qu'elles continuent alors que la relation contractuelle elle s'arrête, ouais, tu vois, c'est-à-dire que là bah des contrats qui ont été signés et qui prévoient une commission après chaque paiement client, bah c'est des choses qui continuent après, oui, la relation contractuelle, oui. Et puis si vous avez une mauvaise relation, eh ben on va dire que c'est un incitatif de plus pour pas vous informer que telle ou telle commission, bah, elle devrait être payée, ou c'est peut-être un oubli, hein. Quand on est loin des yeux, on peut aussi être loin du cœur,
loin du porte-monnaie,
et loin du porte-monnaie. Donc il y avait un certain nombre de deals qui étaient en cours sur lesquels, bah, il est prévu une commission. Et puis c'est clair qu'en gardant un bon contact, on est aussi plus à l'aise pour demander comment vont les affaires. Voilà, tout simplement. Et le deuxième mot, hein, donc finalement, bien communiquer, c'est quoi? C'est bien communiquer à l'interne. Donc on quitte l'entreprise, on donne des modalités de départ, on communique autant auprès de ses collaborateurs qu'auprès des clients qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et puis finalement, on organise un handover pour que, oui, le remplaçant se sente à l'aise. Et puis s'il vous plaît les gars, votre numéro de téléphone, il reste souvent valable, même au-delà, oui, de la terminaison de la relation. Donc s'il vous plaît, si le mec il appelle, bah, vous répondez, parce qu'en général c'est un téléphone qui dure 5 minutes et qui lui rend un monstre service. Et donc cette communication, elle doit aussi être valable pour le commissionnement que vous continuez à recevoir. Donc gardez cette confiance de votre ancien employeur. Et donc le deuxième mot, c'est archiver. Alors là, c'est un truc, on va dire, par la force des choses, c'est moins transparent. Vous avez fait des offres, vous avez un réseau que vous avez bien archivé dans votre Outlook. Moi, l'affaire, elle est simple. À chaque fois, bah, je pense à mes contacts. Je pense aux contrats que j'ai conclus, aux offres qui sont en, oui, cours, et aux documents de travail qui me permettent de mieux planifier. Parce que des fois, on a des super masques, des super modèles qui ont été partagés au sein d'une entreprise. Donc voilà, les trois mots, c'est contact, contrat et documents de travail. Vous ramassez tout ce qui peut vous être utile à l'avenir. Évidemment, ça n'est pas légal dans certains cas. Donc faites-le discrètement. Donc je vous dis pas de simplement enfreindre la loi. Loin s'en faut. Je dis juste que prendre des documents qui sont ensuite anonymisés pour pouvoir les réutiliser autrement, ressaucer, tu sais, à votre manière, c'est quelque chose que moi, personnellement, je fais pour mes affaires.
Bon, c'est tout le monde qui fait ça. Après, je crois qu'il y a un côté anonymisation et puis de ne pas utiliser les choses qu'on a appris, enfin les informations personnelles à l'intérieur. Mmh. Et je dirais une chose, parce que moi j'ai eu pas mal de handover aussi avec des gens, mes responsables de vente qui sont partis et des choses comme ça. Je crois aussi de comprendre des fois l'historique, c'est-à-dire de faire un petit document où si la personne a été là pendant longtemps, d'expliquer qu'est-ce qu'elle a fait, quelle était sa stratégie et puis qu'est-ce qu'elle a fait pour essayer de la mettre en place. Et ça permet de revenir, de dire « Ah, ouais, ça s'est passé comme ça », et puis d'avoir une vue de l'historique des choses, c'est aussi intéressant pour comprendre la relation avec ce client. Ouais, je dirais.
Excellent, bah, merci beaucoup pour ce point-là, je pense qu'il complète et conclut très bien cette deuxième expérience.
Et c'est bien, et si vous avez eu des expériences de conclure ou de terminer des relations de travail, pas seulement qu'on termine une relation de travail à vous, mais dans la vente, dites-nous, c'est toujours intéressant que vous partagez, vous pouvez aussi faire un petit blog post et puis nous l'envoyer, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, merci pour ces deux expériences de la semaine. Ouais, on voit qu'on y va, on a envie de parler, Marco, hein. 34 minutes, là on a envie de parler, on voit que ça fait un mois et demi qu'on n'a pas parlé de vente, donc c'est cool. On va passer aux news de la semaine. Et les news de la semaine, ben voilà, c'est 2-3 news qu'on trouve intéressantes dans le monde du retail, de la vente ou de la communication. Première news intéressante, ouais, que j'ai trouvé vraiment pas mal, c'est peut-être vous connaissez Macy's. Macy's est un des plus grands department stores américains et qui va fermer une centaine de magasins aux États-Unis. Il est surtout présent aux États-Unis. Macy's, on peut le comparer en France à un Printemps ou à un BHV. En Suisse, on peut le comparer à un Manor, exactement. Ou en Allemagne, on pourrait le comparer à un Karstadt. En Belgique, j'arrive pas à le comparer à quoi que ce soit. Je sais pas si aussi il existe au Canada, mais ici, je suis pas sûr, j'en ai pas vu. Mais voilà. Alors, il va fermer des centaines de magasins. Alors, ça c'est une... qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les department stores, alors qu'ils ont des habits, alors que normalement ils ont plein de choses, ils arrivent toujours pas à pouvoir trouver la solution pour combattre le online. Je dois dire, Macy's, pour y avoir été souvent aux États-Unis, surtout dans le flagship de New York, ils travaillent très très bien le online, hein, pour shopper online, pour développer online. Moi, mon explication de ce genre de choses, c'est que, ben voilà, ils sont bons dans l'online, mais ils sont pas aussi bons que leurs concurrents. Et donc, ce qui fait que, ben voilà, leurs concurrents étant des gens comme Amazon ou d'autres, le gâteau ne devient pas plus grand. Les clients n'achètent pas plus, mais ils achètent différemment. Ce qui fait qu'il y a toujours des perdants et des gagnants dans l'histoire. Est-ce que les consommateurs achètent ailleurs? Ils vont pas le consommer chez Macy's, ce qui fait qu'ils doivent fermer des magasins. Je trouvais intéressant comme news de montrer que si aux États-Unis, ils n'arrivent pas forcément à trouver la solution, je doute qu'en Europe, les department stores y arrivent. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de ça, toi ?
Je vais te le dire, Michael. Je trouve très intéressant cette news. J'ai beaucoup aimé ton explication également. J'aimerais ajouter un complément, c'est que j'imagine maintenant que les chaînes qui faisaient du brick and mortar, hein, comme le fait Macy's, maintenant, ils ont un certain historique, hein, peut-être même de 10 ans, tu sais, sur qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'online, la progression. Et je pense qu'ils arrivent à avoir de l'interne comme les activités online peuvent être plus rentables. Comme finalement le chiffre est plus intéressant. Ouais. Et j'ai envie de dire, entre l'externe, tu vois, les concurrents qui font mieux que toi, donc ça t'énerve, et l'interne où tu vois que genre t'as 3 gars et demi, un demi pour le social media, et puis les 3 autres, tu sais, pour juste faire un joli site, et qui rapportent clairement plus que les centaines de ou les milliers de collaborateurs qui travaillent dans tes department store, brick and mortar, bah tu te dis, non, moi aussi, en fait, j'ai envie d'investir plus dans l'online, et j'ai plus envie de m'embêter avec ça.
Ouais. En te disant, moi je pense qu'une des solutions dans ces department stores, c'est d'avoir des flagships, donc ces grands department stores, bah voilà, qui continueraient à en fonctionner dans une ville comme Paris, Lyon, Marseille, enfin toutes ces grandes villes, Bordeaux, où tu garderais tes 10 grands department stores et puis tout le reste, bah voilà, tu gardes que ce qui est grand ou ce qui fonctionne, et le reste tu l'arrêtes et tu le pousses sur l'online. Alors c'est dérangeant peut-être pour les villes qui sont moins grandes, mais en même temps, je pense que ça va, ils arriveront pas à survivre, les coûts sont trop grands, les coûts des loyers, tout ça, c'est énorme. En plus, la pression sur les prix, la pression sur les marges, et je veux dire, ils sont destinés à arrêter. Et vendre tout, c'est difficile. Et ces department stores, c'est des vendeurs qui vendent, ils vendent de tout. Donc, ils ne sont pas spécialisés en quelque chose. Alors oui, on me dira, oui, cosmétiques et autres, oui, c'est peut-être leur spécialité. Mais c'est des grands vendeurs de tout, donc ils sont spécialistes en rien. Et ça peut les desservir. Mmh. Une deuxième news intéressante, qui sera la dernière pour aujourd'hui, c'est... pour un peu aller à l'encontre de ce qu'on disait, ah, la fin du monde pour les department stores, c'est un shopping center, un shopping mall très très connu aux États-Unis qui s'appelle RGA Commerce, qui sont en fait des gens qui design pas des department stores, mais des centres commerciaux énormes et des shopping malls. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a eu tellement de shopping malls qui se sont développés qu'il y en a beaucoup qui commencent à mourir, qui ferment et qui sont devenus horribles, un peu comme un Foxtown à Villeneuve. J'y suis allé, j'ai eu peur en Suisse. N'allez jamais dans un shopping mall qui est en train de fermer, ça, c'est angoissant comme sentiment. Voilà. Et alors, eux, ils se sont dit, ben voilà, ce qu'on va essayer, c'est de créer un pool ou de remettre ensemble un pool de start-up pour qu'ils développent des nouvelles concepts à l'intérieur de nos shopping centers. Et ils en ont développé dans un des shopping centers, ils ont mis ensemble ces boîtes pour pouvoir créer le shopping center de demain. Et un truc qui est assez incroyable, c'est ces 10 startups, et puis je voulais en parler juste de 2-3, de qu'est-ce qu'ils font ces startups dans ce domaine. Alors une, elle s'appelle Percolata, et il utilise, tu en as déjà souvent parlé, elle utilise des senseurs pour pouvoir donner des données sur les ventes et de donner des données sur le mouvement physique des gens à l'intérieur du centre commercial. Et ça, je trouve vraiment pas mal. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas encore assez développé et pas encore assez utilisé. Voilà. Une des autres que je trouvais assez intéressant, c'est que c'est tout le côté aussi logistique. C'est vrai qu'actuellement, logistiquement, bah, chaque magasin a lui-même sa propre logistique pour pouvoir envoyer les produits à son consommateur. Et là, ce serait une solution beaucoup plus locale, si on veut, d'utiliser la logistique pour pouvoir livrer directement son consommateur à l'intérieur du centre commercial. Alors, vous en voyez des fois dans les centres commerciaux des petites camionnettes de centres commerciaux qui vont livrer directement le client à proximité. Et c'est un peu de pouvoir faire ce genre de développement à l'intérieur. Troisième chose que je trouvais intéressant, et pour moi c'est le futur aussi, c'est l'utilisation du AI, l'intelligence artificielle. J'ai écouté un podcast de McKinsey, qui est un groupe assez connu dans le consulting, qui dit il n'y a jamais eu autant de données qui ont été créées depuis ces 6 derniers mois, de données que les compagnies peuvent utiliser. Vous vous rendez compte ce qu'on nomme Big Data. Ces 6 derniers mois, il y a plus eu de données créées que n'importe quand sur la planète. Mmh. Et c'est montré la quantité de données de Big Data qui est créée. Comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser ou pour les voir? On a besoin d'intelligence artificielle pour pouvoir comprendre ces données et nous résoudre les problèmes que ces données nous montrent. Et ça, je pense que c'est aussi un élément qui rentre. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit technologie, type AI, type sensor, type analytics, de logistique. Deux axes pour aider les centres commerciaux à se développer.
Puis ce que je trouve intéressant, c'est que... Parce que moi, je perçois la technologie comme loin. Ah oui. Mon Dieu, on va la subir. Ouais. Puis là, c'est un mélange entre technologie d'une part, mais la logistique, c'est toujours du local. Hein, même du local qui se déplace, mais c'est de la main-d'œuvre, c'est des gens qui sont dans le coin. Donc c'est comme une fusion entre technologie et local que je trouve finalement très bien.
Ouais. Alors,
on verra ce que ça donne.
À voir, mais j'aime bien ce genre de choses. Aussi, je pense qu'après, ils ont un élément pour pouvoir tester. Toi-même, tu sais, hein, tu as travaillé dans des startups comme ça ou avec des startups comme ça, tu as besoin après d'un lieu pour le tester. Et si tu peux avoir ce lieu pour tester, si tu peux avoir ces clients pour faire tes tests, t'es le plus heureux des personnes. Parce que tu vas pouvoir vraiment comprendre ce que le client veut.
C'est génial, un super setup quoi.
Voilà, de toute façon on met le lien sur toutes les startups parce que là j'en ai parlé de 3, hein. Il y en a 10 au total, donc on mettra le lien dans les show notes. Vous allez sur nipsales.com et puis vous cliquez sur les notes de l'émission et bien sûr vous les trouvez sans problème. Voilà pour les news de la semaine. On va passer au Ask Nipsales avant de passer à la partie inspiration. Je pense qu'on va en choisir 2 au lieu de 3, hein, parce qu'on est un peu pressé dans le temps. L'Ask Nipsales, c'est quoi? C'est que vous pouvez nous poser des questions avec le hashtag Ask Nipsales en un mot et nous, on va y répondre. Alors, on va bien sûr les sélectionner, hein, sélectionner celles qui nous intéressent pour pouvoir vous répondre et vous donner notre avis. Si c'est une news, vous mettez la news, vous mettez Ask Nipsales derrière, hashtag Ask Nipsales sur Twitter et là, on répondra, en tout cas, on regardera. Et à chaque émission, on permet de vous communiquer. Voilà, donc à toi l'honneur, quelle est la première et qui l'a posée? Quelle est la première auquel tu veux répondre?
Écoute, moi je propose qu'on retienne celle de Paquet Michael, Paquemi, et puis celle de Onive. Et donc je vais commencer par celle de Onive qui me touche. Oui. Donc Onive qui communiquait via Twitter, les business points de Genève et Berne ferment leurs portes. Donc il n'y avait pas de point d'interrogation, mais moi ça m'a vraiment posé une interrogation. En deux mots, les business points, c'était des espaces où on pouvait louer des salles de réunion dans les gares de Genève et de Berne, qui sont juste la ville numéro 2 et la ville numéro 4 en nombre d'habitants de la Suisse. Et je connais ces business points pour les avoir utilisés, c'est hyper pratique, c'est intégré à la gare. Et,
tu nous avais déjà dit à quel point tu adorais ces machins. Donc toi, tu es le plus grand déçu.
Bon, écoute, ça a fermé. Pourquoi? Parce qu'il était rempli à hauteur de 15% à Genève et de 40% à Berne. Et je me dis comment c'est possible que dans la Genève internationale, un espace de type coworking, voilà, où on peut louer des salles de réunion, soit rempli à 15%. Et j'aimerais que SBBCFF se pose des questions sur la manière de driver un projet comme celui-là, parce que pour moi, il est évident que des espaces pour louer des salles de réunion et de coworking dans les 5 gares des plus grandes villes de Suisse, c'est un des projets qui fait le plus de sens au niveau professionnel.
Oui. Donc voilà, je m'arrête. Surtout pour la mobilité de demain. Moi, sans connaître le sujet, je me dirais il y a deux éléments. Pour avoir des fois utilisé ces business points à Paris et d'autres, il y avait une question, c'était le prix. Quand tu vas te poser une heure et que tu dois payer 150 € pour une heure dans une salle, ça t'énerve un peu.
Mais
tu préfères aller dans le café tu préfères aller dans le café du coin discuter. Après, c'est sur la communication. Toi, tu me parles de ça. Moi, qui ai beaucoup beaucoup voyagé en Suisse, je n'en avais jamais entendu parler. Alors, tu me diras, comme on dit en allemand, Selberschuld, c'est toi qui es coupable. Mais je pense qu'il y a un côté communication, de mettre en avant ces choses-là, mettre en avant dans les business pour pouvoir les rentabiliser. Alors, je dirais un prix, deux communication.
Écoute, complètement d'accord. Et puis sache que finalement à Genève, les repreneurs ont été nombreux, hein, puisqu'il y a McKinsey, le cabinet de consulting que tu évoquais tout à l'heure, qui a repris tout un étage. Alors eux, ils ont tout compris. Hein. Se positionner au cœur de là où tout se passe, dans la deuxième ville de Suisse, la première francophone, bravo McKinsey. Eux, je pense qu'ils ont fait une bonne affaire.
Et ils ont fait une bonne affaire. Moi qui ai travaillé pour Ernst & Young, une boîte de consulting, c'est exactement ça. C'est que si tu peux faire venir tes clients et en même temps avoir la mobilité d'avoir tes bureaux dans ces espaces-là, tu permets déjà un d'avoir du d'avoir des talents qui viennent te voir, parce que même si le gars il habite Genève et qu'il doit des fois aller à Berne et que tes bureaux sont à la gare, le gars il, ça le dérangera pas du tout de travailler pour toi. Donc cette mobilité elle est là, et aussi pour le client. Le client qui dit bah oui bien sûr on se voit à Berne, on se voit là. Il y a un côté mobile qui est génial. Donc ça fait extrêmement sens quand tu me dis une boîte de consulting rachète ou reloue ces espaces là. C'est bien, bravo.
Non mais c'est évident, c'est évident. Et puis en parlant de gros noms, je vais te laisser la news de Pakemi sur Amazon. Je me suis dit que ça c'était une spéciale dédicace pour toi.
Parce qu'on parle pas tant que ça d'Amazon maintenant. C'est vrai, ils sont tellement le gorille énorme. J'ai remarqué que les gens n'aiment pas parler d'Amazon parce qu'ils en ont peur. Moi, j'ai pas peur du futur. Je l'embrasse le futur. Alors, on va en parler. Amazon vont créer des smartphones vraiment pas chers contre de la publicité. Une chose. Je trouve toujours intéressant ces différents business models, hors la technologie. C'est que d'un côté, tu as Apple qui se fait de l'argent sur le hardware et tu as des autres personnes qui, comme Google qui se font de l'argent sur le software, donc, ou sur l'utilisation du software comme Android. Donc, tu as différentes manières de pouvoir trouver un business model. Amazon est entre deux. Des fois, ils se font de l'argent avec du hardware. Moi, j'ai par exemple le Alexa. Amazon, ils sont entre deux, je pense. Ils sont vraiment entre deux. Ou d'un côté, ils ont déjà testé le hardware. Ils ont des trucs qui fonctionnent nickel. Un, c'est le Kindle pour lire. Deux, c'est l'Alexa dont je vous ai parlé, qui est un espèce de petit rond d'intelligence artificielle. Et ils savent vendre de la publicité sur leur smartphone. Pourquoi ? Parce que ils le font avec leur Kindle, qui est leur liseuse électronique. Donc oui, ça peut fonctionner. La première version n'avait pas fonctionné du tout et puis ils s'étaient plantés. Mais la chose qui est bien avec Amazon, c'est qu'ils acceptent de se planter pour mieux sauter encore plus haut et sur la tête de tout le monde. Donc, je dirais, il faut toujours compter avec Amazon dans la pièce. Voilà.
Écoute, moi, c'est pas le téléphone que j'achèterais, ça c'est certain. Tu sais, j'étais presque un peu déçu de la part d'Amazon parce que je trouve qu'ils sont très souvent dans l'innovation.
Oui.
Et puis là, franchement, quand on en soit encore à parler à des smartphones qui seraient rémunérés, tu sais, contre la diffusion de publicité, tu sais, de la publicité quand même vachement conventionnelle. Hein. On parle de spots de pub ou on parle de petits cadrans sur lesquels tu cliques dessus. Ah, je suis resté un petit peu sur ma faim. Donc,
ils savent le faire, n'oublie pas. Ils savent le faire parce qu'ils le font déjà sur leur Kindle, la liseuse électronique, et ils le font aussi sur leur site. Donc, ils ont vraiment une machine de publicité, à savoir que leur publicité est aussi leur propre produit qu'ils vendent.
Oui, non, c'est mais je reste sur ma faim au sens que je trouve pas hyper innovant. Mais je serais pas surpris que ça trouve son public, notamment auprès des plus jeunes. Oui. Et puis, est-ce que Amazon, tu sais, ferait le genre de provocation de proposer des iPhones, tu sais, qu'ils achèteraient en masse pour pouvoir finalement avoir un super téléphone? Tu sais, quand t'as 14 ans, que t'as pas beaucoup d'argent, alors un téléphone iPhone, t'en rêves, mais tu peux pas te le payer. Et je me dis, est-ce qu'ils arriveraient à proposer, tu sais, des produits super premium contre de la publicité pour un prix vraiment pas cher? Point d'interrogation.
Et on c'est verra. Là que tu connais mal les adolescents car ils ne rêvent plus d'iPhone, mon très cher Marco. Ils rêvent de Samsung, ils rêvent de Huawei, ils rêvent d'autres trucs, mais définitivement pas d'iPhone.
Ok, bah écoute, ça on va pas parler aux mêmes parce que ceux à qui je parle, tu sais, ils ont un Samsung parce que ça tourne bien. Et puis ils se réjouissent quand même d'avoir de la thune pour pouvoir et avoir un bon abonnement et avoir en fait un téléphone qui tient la route, quoi.
Ok, d'accord.
Même que j'aime pas spécialement Apple.
Alors, on agree to disagree. On est d'accord de ne pas être d'accord ensemble et c'est une bonne chose. On va en tout cas parler maintenant de la partie inspiration où on prend un grand bel air et on se met à rêver. Marco, fais-nous rêver.
Avec une grosse section inspiration cette semaine, on va commencer avec un podcast tout frais sorti du four que j'ai préparé, co-préparé avec Lothar Bilquet. Il s'appelle Nip Médite et dans ce cinquième épisode, nous proposons d'apprendre à méditer. C'est le titre de ce cinquième podcast. Cette fois, dans une demi-heure où vous entendrez la voix de Lothar, aller un peu plus encore que la mienne, vous serez accompagné 18 minutes durant dans une méditation guidée qui est spécialement dédiée aux personnes qui débutent dans la méditation. Donc pas mal de commentaires et de trucs, hein, finalement une marche à suivre pour aller méditer un peu plus que les 2 ou les 5 minutes avec lesquelles nous avions commencé.
Ouais. Moi, je peux que dire à tous ceux qui n'ont jamais fait de méditation de respiration ou de choses, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, de commencer. Franchement, moi, j'utilise une app qui s'appelle Headspace. C'est anglophone, mais qui permet de faire de la méditation guidée. Alors, je ne fais pas tous les jours, je fais 10 minutes. J'essaie de faire au maximum, mais je dois dire, ça change vraiment mon état d'esprit et la façon dont je vois la vie, comme je je réagis au stress, je réagis à plein de choses. Et je pense que dans la société dans laquelle on est, qui est drillée par la performance, drillée par le changement perpétuel, la méditation est vraiment une solution, et je ne parle pas au niveau religion, moi, hein, je parle de cette respiration, est une solution à notre mode de vie qui bouge tout le temps. Et je pense que de plus en plus de gens le font, et de plus en plus de gens vont le faire, car c'est une réelle solution. Voilà.
Super, plaidoyer pour la méditation. Merci Mike, et je crois que l'image
du jour... Tu médites, toi, tous les jours ?
Alors, pas tous les jours, mais j'aime bien le faire régulièrement. Tu sais, c'est difficile de le faire de manière, en tout cas pour moi, hein, de manière régulière, plus que 15 minutes. Alors c'est oui. pour ça que j'aime bien aussi le faire entre 10 et 15 minutes le
tout
matin.
À fait. Tout à fait.
Et
moi,
c'est vrai que tout d'un coup, reprendre ses esprits pendant une minute, tu sais.
Pendant la journée. Ouais.
Exactement. Tourner son crayon. Voilà. Oui. Tourner son crayon entre ses
et
doigts.
Respirer, ouais.
Et c'est bon. Je reprends, comment dire, mon assise et je repars.
Ouais, moi j'aime bien ça. Une chose, je me disais toujours, on en parlait dans le dernier Nip Tech avec le pouvoir des habitudes, où on se disait que ouais, vaut mieux même le faire 10 minutes ou 5 minutes plutôt que pas du tout. Donc moi je, alors bien sûr on dit ouais, il faut 30 minutes au minimum, c'est ça qu'il faudrait pour mieux se sentir. Oui, mais si on le fait pas ou on pense qu'on n'a pas le temps de le faire comme moi, autant prendre 10 minutes ou 5 minutes et puis le faire.
Et puis je dois dire que tu me l'as bien vendu, le pouvoir des habitudes là. Je t'avoue que c'est un podcast que je vais mettre dans ma liste à écouter. La semaine prochaine. Donc Nip Tech, le pouvoir des habitudes.
Une image, là je vais prendre la parole parce que j'ai mis un truc dans l'inspiration qui m'a inspiré. Et une fois n'est pas coutume, ce qui m'a inspiré, c'est une image. C'est pas vraiment une statistique, c'est comment est-ce qu'on pourrait l'appeler un tableau. Et ça s'appelle le pouvoir des 1000 vrais fans. Et c'est un tableau qui a sur un axe la popularité et sur l'autre axe les produits. Et ça montre, et ça disait une chose que je trouvais super intéressante, qui disait finalement, il y a très peu de gens qui vendent beaucoup du même produit à énormément de gens. C'est des artistes très très connus, c'est des retailers qui sont sur la planète, mais la plupart des gens, ils n'ont pas besoin de plus de 1000 fans pour pouvoir développer un énorme business. Et à ces 1000 fans, ils pourraient leur vendre pas seulement un produit, mais des dizaines de produits qu'eux-mêmes utilisent, parce que les gens leur feraient confiance. Et je trouvais assez génial cette notion du « the power of 1,000 true fans », le pouvoir d'avoir 1000 vrais fans ou de gens qui nous suivent et qui nous écoutent, plus que le pouvoir d'en avoir 1 million. Et ça m'a parlé d'une certaine manière, parce que nous, on a toujours été niche. On a été niche à Nipsales, Nipcast. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, ça représente exactement ce que j'ai toujours pensé. Je pense que c'est beaucoup mieux de parler même à 500 personnes ou 600 personnes comme nous, et puis vraiment les toucher plutôt que de parler aux masses. Moi, j'ai pas envie de parler aux masses, j'ai envie de parler aux gens qui font l'effort de downloader notre podcast chaque semaine ou chaque 2 semaines pour pouvoir nous écouter. Et c'est pour ça que j'aimais bien cette image. Vous pouvez aller cliquer dessus, peut-être je l'ai mal décrite, vous irez cliquer dessus sur les notes de l'émission. Et je pense qu'on peut le faire aussi dans notre business. On n'a pas besoin d'avoir des milliers, on n'a pas besoin d'être boulanger, Carrefour, machin, Amazon pour avoir. On peut développer des fans un par un, et après, il en suffit d'en avoir 1000.
Ouais, écoute, tu sais, tous ceux qui ont lu The Long Tail, ce fameux livre d'Anderson, qui est une révolution, qui était une révolution au moment où il est sorti, vous vous rendrez compte que cette courbe, ce graphe, rappelle méchamment la théorie du long tail.
Oui.
Et donc, effectivement, l'autre chose que ça me rappelle, c'est, tu sais ce que tu as toujours dit, Mike, là, je dois rendre à César ce qui lui appartient. Tu n'avais que faire, tu sais, des chiffres d'audience, ce qui t'a toujours intéressé, ce qui t'intéresse toujours d'ailleurs, c'est le nombre d'interactions.
Oui.
Et tu sais, quand je ramène ce principe à la vraie vie, je crois qu'on vit à travers nos actions et à travers les actions des autres, hein, de notre entourage. Et je crois que tout ce qu'on fait, en fait, c'est d'entreprendre. Et donc, tout ce qui amène de l'action, je crois que c'est un indicateur qui est très puissant. Et donc, pour moi, le pouvoir d'avoir 1000 vrais fans, c'est finalement le pouvoir de l'action. Parce que c'est des gens qui, parce qu'ils vous aiment, sont prêts à faire des choses pour vous. Voilà.
Oui.
Donc, je trouve très intéressant d'avoir ce graphe, effectivement, sous les yeux.
Ok, très bien. Allez, continue à nous inspirer, Marco.
Alors, cette fois avec un event, qui plus est un event gratuit, et moi, j'y vais vraiment à 100% pour m'inspirer. Tu parlais tout à l'heure de Big Data, et donc mardi 23 août, c'est là, tout soudainement. Hein, donc, je vous recommande de vous inscrire dès dimanche soir, dès lundi 22 août, ce sera vraisemblablement l'échéance. Le sujet de cette demi-journée de conférence, c'est l'information à l'heure du numérique et du Big Data. Ça se passe au Rolex Learning Center à l'EPFL de Lausanne. L'inscription est gratuite, on va vous laisser le lien pour vous inscrire sur la page nipsales.com en référence interférence avec l'émission. Et qui plus est, nous allons avoir le studio NipConf qui sera présent. Vous savez, dans la halle des stands, il y aura 20 concepts interactifs. Nous serons un de ces 20 concepts. Nous avons prévu deux podcasts Nipsales Explore durant l'après-midi, le début d'après-midi, après le lunch. On a même créé un groupe meet-up pour ceux qui voudraient nous dire bonjour et voudraient passer nous voir hein, pendant qu'on est en phase d'enregistrement ou durant la matinée pour s'inspirer. Donc, on aura du lourd en termes d'intervenants. Hein. Je termine le meilleur pour la fin. On a même Doris Leuthard, hein, la conseillère fédérale qui représente l'Office fédéral de la communication, qui sera là pour dire son bon mot, à côté de Monsieur Schalter, le CEO de Swisscom. Et nous avons le président du conseil d'administration de SSR qui sera lui aussi présent, en plus du directeur général de la RTS. Donc, c'est des gros médias suisses qui racontent comment eux sont en train d'intégrer le big data ou comment ils envisagent de le faire si ça n'est pas, si ça n'a pas déjà commencé. Donc, il y aura tout le gratin des médias romans, en tous les cas, qui sera présent durant cette journée. Et je vous recommande vivement de venir, rien que pour faire la fusion entre nouveaux médias, anciens médias et big data, ou ne serait-ce que pour se serrer la main et se rencontrer hein, dans la vraie vie.
Ça, c'est pas mal comme truc. J'avais
c'est
pas...
génial.
Ça a l'air cool. Et vous allez faire des NipTech Explore avec des gens en particulier. Vous allez, vous savez les gens que vous allez interviewer déjà?
Tout à fait. Puis on a du lourd là aussi. Donc, ce sera d'une part un NipSales Explore, la transformation des médias. Hein, si tu veux, je voulais en faire deux spéciaux sur la communication, Mike. Et donc, ce NipSales Explore, la transformation des médias, on va le faire avec Mickaël de NF. Donc, qui est directeur du consulting innovant chez Business et Décision. Donc, c'est un groupe qui fait du conseil à l'échelle mondiale. Donc, c'est Innovation Consulting Director. Son titre, ça fait moins débile en anglais quand même. Et il a une expérience, mais vraiment longue comme le bras, avec des groupes comme la RTBF en Belgique ou France Télévisions. Également des journaux hein, qui ont des sacrés challenges en termes de transformation. Donc, c'est un ponte de la transformation digitale qui va nous parler de la transformation de médias européens.
Bon, ouais, c'est clair. Moi, c'est vrai que les big data, ça m'intéresse. Le niveau, moi, les médias, si tu pourrais leur poser une question, Marco, c'est celle-ci. C'est comment est-ce que ces médias-là vont réussir à concurrencer nous qui faisons ça gratuitement pour le plaisir et non pas pour l'argent.
C'est
tu sais, quand je leur pose la question, ils savent jamais me dire. Donc, si tu pouvais leur poser la question, de dire parce que, bien sûr, tous ces grands médias, ils te diront ouais, mais les podcasts, on les met, mais c'est pas ça la différence. C'est de créer du vrai contenu. Du vrai contenu est là. Et leur concurrence viendra de leurs propres journalistes qui créeront leur propre contenu avec leur propre marque et qui leur concurrenceront eux. Et
ça a déjà commencé.
Ça a déjà commencé, mais ça a surtout commencé aux États-Unis. Ici, on voit que le début de l'iceberg et les gens ne l'ont pas encore compris, en tout cas les gens dans les médias. Mais j'avoue, si j'avais le temps, je passerais. Je vais regarder si je peux passer. Ça a l'air très cool.
Je te conseille parce que c'est vraiment du très très lourd, Mike. Je suis étonné qu'on n'en ait pas parlé avant parce que moi, ça fait un moment que je suis inscrit. Mais pour t'évoquer la deuxième intervenante que nous aurons dans le studio NipConf, le programme se trouve sur lereseau.ch. On va évidemment mettre le lien dans nipsales.com. La deuxième intervenante, c'est Diane Gaillard, qui est une spécialiste des relations publiques et avec laquelle nous allons parler dans l'émission NipSales Explore les relations publiques. Quel est le lien entre relations publiques et vente? Alors pour moi, il n'est pas forcément direct ou il n'est pas toujours direct, mais ce qu'il y a de certain, c'est que la présence dans les médias, la présence dans les social médias, la présence dans des événements qui sont repris font certainement vendre plus, vendre mieux. Et c'est avec Diane Gaillard qui a autant de l'expérience avec des multinationales qu'avec des startups. Tu sais qu'elle a accompagné jusqu'à la mise sur le marché, si tu veux, d'avoir plus que 3 clients. Quoi. Et donc une vraie expérience sur laquelle je me réjouis de capitaliser avec elle. Donc deux intervenants d'une très grande qualité, y compris dans le studio NipConf.
Pas mal, j'adore. Allez, fais-nous rêver pour la dernière, la citation du jour. Marco, quelle est-elle?
L'intelligence n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et c'est Jean Piaget, un grand pédagogue suisse qui est l'auteur de cette citation.
Ouais, c'est très intéressant. J'en ai parlé en plus cette semaine de ce genre de choses. Que c'est vrai que je vous avais dit, j'avais bossé dans le monde du consulting. Et une des choses qu'on apprend dans le monde du consulting, c'est être d'accord avec soi-même de ne pas tout connaître. Et puis on apprend à être plus intelligent en sachant se perdre et puis en sachant savoir qu'on ne sait pas tout et puis comment est-ce qu'on réagit quand on ne sait pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant que j'adore et qu'on peut voir dans des si on fait des même pas des conférences mais si on fait des workshops, des choses comme ça, on voit qu'il y a différentes personnes qui réagissent différemment dans je sais pas. Et j'adore cette phrase. Bravo Marco.
Ouais, bah écoute, bravo à Monsieur Piaget, parce que moi, ce que ça m'a rappelé, c'est que non, les savants sont pas ceux qui savent, quoi. Les savants sont ceux qui font mieux, quoi, mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est tellement tourné vers la résilience et vers l'action que, waouh, j'ai peu de commentaires à ajouter, je veux juste laisser la beauté de cette phrase. L'intelligence n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas.
Ça devrait être un t-shirt, c'est tellement beau. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va partir et se rejoindre, je pense, dans 2 voire 3 semaines, mais je crois plutôt 2 semaines. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette émission. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez bien sûr les laisser. C'est très simple, soit vous allez sur Twitter, c'est la meilleure manière. Vous tapez Marco_NIP ou Side SYDE pour moi, ou alors @NipSales, et vous pouvez nous laisser tous vos commentaires, vous nous laissez vos interactions. On a aussi une page Facebook qu'on n'utilise pas. On a par contre une page LinkedIn qu'on utilise, que Marco, voilà. Et ça, c'est une manière de nous communiquer. Bien sûr, on est toujours très heureux si vous nous laissez dans iTunes des petits commentaires en disant oui, vous avez aimé, vous aimez ou vous aimez pas. Hein, c'est votre liberté de le dire. Nous, on aime le feedback, qu'il soit positif ou pour nous améliorer. Ça nous fait toujours plaisir d'être en votre compagnie pendant une heure pour parler de vente, de retail et de communication. On vous dit à dans 2 semaines. Ciao, ciao.
Bye.
Nip Sales.